si gira, silenzio.
Camera.
Motore.
Motore. Partito.
Check. Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Les podcasts de la Cinémathèque.
Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En juin 2023, c'est la traductrice, écrivaine et critique de cinéma Hélène Frappa qui se prêtait à cet exercice en programmant Roar de Noël Marshall. Rencontre avec Hélène Frappa, animée par Frédéric Bonneau.
Bonsoir à tous. Si vous voulez bien accueillir Hélène Frappa, d'abord, avant toute chose, le livre Le temps passe, le livre est sorti il y a quoi, 2 mois ?
Janvier.
Janvier, allez, un peu plus que 2 mois, donc presque 5 mois. Donc avec ce dernier livre, comme d'habitude chez Actes Sud, Trois femmes disparaissent, Hélène Frappa a été critique de cinéma, elle a beaucoup écrit sur le cinéma, un livre sur Jacques Rivette en particulier, qui fait autorité, un autre sur Roberto Rossellini. Elle est écrivaine, romancière, elle est agent secret et détective privé. Ça, c'est ce qu'elle raconte dans le livre, le côté Colombo en jupon, je cite. Et donc, ce livre n'est pas exactement un livre de cinéma, c'est vraiment une rêverie très informé, c'est-à-dire que les gens ont été rencontrés, les dossiers ont été ouverts, mais une rêverie qui part des relations entre Tippi Hedren et Alfred Hitchcock, relations assez effrayantes, comme vous le savez sans doute, et qui ensuite tire ce fil de comment des gens aussi connus et qui prennent autant la lumière que des comédiennes finalement disparaissent et pour quelles raisons. Donc trois femmes disparaissent avec une généalogie de comédiennes. La première s'appelle Tippi Hedren, la seconde s'appelle Melanie Griffiths et la troisième s'appelle Dakota Johnson. Mais il est aussi question dans ce livre de Deborah Winger, encore une actrice qui a disparu, grande comédienne, d'Agatha Christie, et pour cause, puisque c'est aussi une enquête, et aussi de Marilyn Monroe. Donc voilà, beaucoup de fils sont tirés dans ce livre, et pour qui aime le cinéma, eh ben c'est un livre avec le cinéma, et qui ne ressemble pas à un autre livre. Donc c'est pour ça qu'on était si heureux de proposer cette forme originale qu'est Parlons cinéma avec, à Hélène Frappa. Donc pendant 4 jeudis, elle sera avec nous. Le premier film, celui qu'on va voir ce soir, est directement lié au livre. Le second, jeudi prochain, ça sera La Fugue d'Arthur Penn, qui est, disons, le premier grand rôle de Melanie Griffiths, même si, et pour cause, on la découvre avant à l'écran. Ensuite, il y aura Riche et célèbre de Georges Cukor, le dernier film de Georges Cukor, avec Candice Bergen et Jacqueline Bisset. Et le quatrième est
Spanglish.
Et le dernier est un film de James L. Brooks, celui qui a fait tant de passions. Et celui-là, il s'appelle
Spanglish.
Voilà. Et je n'en avais absolument jamais entendu parler. Jamais. Donc, ça sera le quatrième des films. Oui, bien sûr, je serai là. Donc, voilà. Je vais laisser Hélène présenter le film de ce soir, donc Roar. Drôle de film, c'est le moins qu'on puisse dire. Drôle d'histoire aussi, et beaucoup de son histoire est dans le livre. Alors, question rituelle, qui l'a déjà vu ? Ah, alors là, vous vous dénoncez un peu, parce que les maniaques de Roar, enfin voilà, ça nous donnera de quoi parler avec Hélène après la projection. Donc voilà, vous allez voir un film assez étonnant, mais Hélène en sait infiniment plus que moi sur la question, puisque moi, je ne l'ai jamais vu. Donc, je suis comme la plupart d'entre vous, je vais le découvrir. Donc, à toi, je te laisse présenter Roar.
Ben, merci beaucoup, Frédéric. Je suis très honorée et touchée d'avoir été invitée donc à la Cinémathèque, qui a été vraiment, enfin qui est toujours une de mes maisons que j'ai suivies dans ces diverses adresses parisiennes et où j'ai certains des meilleurs souvenirs et les plus intenses de ma vie. Donc ça me touche beaucoup. Et aussi la lecture que tu as faite de Trois femmes disparaissent, parce que je peux l'avouer maintenant, j'avais une sorte de, avec mon surmoi cinéphile qui est un surmoi, donc il pèse lourd, j'avais un peu la trouille en fait des réactions des Hitchcockiens français dont je suis en réalité, mais c'est vrai que je m'étais fait comme ça un peu une peur à l'avance, qui était ma propre peur en fait d'affronter la vraie histoire que j'avais jamais vraiment regardée en face jusqu'au bout du tournage de des Oiseaux et de Marnie, sachant que ces deux films, particulièrement Marnie, restent deux de mes films préférés et que toute la complexité. Toute la complexité d'Alfred Hitchcock, et on peut dire son clivage, hein, la manière dont, enfin, on en reparlera après, elle se trouve déjà dans ce film Roar, parce que bon, je peux vraiment sans spoiler ni sans faire de publicité mensongère vous dire que c'est le film le plus fou de l'histoire du cinéma. Il contient, on peut dire même toute la folie qu'il est possible de mettre dans une œuvre ou dans une vie, et je dirais simplement, enfin, quand ouvrez votre mémoire et votre inconscient cinéphile, parce qu'il y a une chose, moi, que d'ailleurs, pour l'avoir vu, revu pour écrire ce livre, je n'avais même pas vu et que j'ai vu ensuite et qui pourtant crève les yeux, c'est qu'il y a notamment une séquence qui est une séquence absolument identique. Alors, est-ce que le chef opérateur l'a fait exprès ? Moi, je pense que non. Je pense que c'est tout l'inconscient hitchcockien était ouvert, qui est identique à une séquence des Oiseaux, mais on en reparlera après, je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux dire, c'est que après cette année d'un contrat exclusif où Tippi Hedren a été acheté et mise dans une cage, une limousine, une loge et a subi différentes tortures de la part d'Alfred Hitchcock, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie de ces oiseaux qui avaient failli lui crever un œil à plusieurs reprises, qui avaient failli la tuer, des griffes et des pattes de différents animaux, et elle a trouvé comme solution de survie de se réfugier auprès de ce qu'on appelle en anglais les big cats, hein, donc les grands chats, c'est-à-dire les fauves. Fauves non domestiquées, hein, je précise que ce que vous allez voir, le film que vous allez voir, c'est aussi ce qu'on peut appeler un snuff movie, c'est-à-dire un film sans trucage, hein, avec des animaux qui... Alors, il y avait un dresseur, mais ils n'étaient pas réellement dressés, ces animaux, ils n'étaient absolument pas domestiqués, et c'était les animaux, les centaines de fauves avec lesquels Tippi Hedren avait choisi de vivre dans un projet conjugal, donc pour fuir Alfred Hitchcock, elle avait épousé Noël Marshall, le réalisateur du film, qu'elle n'aimait pas, comme elle le dit très explicitement dans ses mémoires, mais avec qui, donc elle n'a pas eu d'enfant, mais elle a eu un projet conjugal qui est ce film, et qui est lié au fait qu'ils sont l'un et l'autre tombés amoureux, tout ça sont des citations de ces animaux que vous allez voir. Et donc, regardez ce film en imaginant qu'il s'agit de se réfugier auprès d'eux et imaginez juste, comment dire, après avoir fui l'un des pires dangers qu'elle ait pu affronter, enfin, le pire danger qu'elle ait pu affronter dans sa vie, comment elle s'est réfugiée auprès d'un danger qui était incontestablement encore pire. Donc, les fauves que vous voyez ne sont pas dressées. Le sang que vous voyez, c'est du vrai sang. Donc, c'est un snuff movie.
Cette mythologie des années 80. Dans sa folie, insiste beaucoup sur le côté aucun animal, aucun fauve n'a été maltraité pendant le
Absolument.
Tournage.
Absolument.
Alors, les animaux, non.
Alors, aucun animal ne l'a été. En revanche, 70 animaux humains, comme je l'explique assez précisément dans mon livre, effectivement, ont subi alors, ça, on en reparlera peut-être après.
Hein, oui, bien sûr.
Ont été très gravement mutilés, hein, notamment le chef opérateur auquel je faisais allusion, Yann de Bond, qui a été scalpé entièrement, et la petite Mélanie Griffiths, qui a entamé à l'âge de 13 ans son parcours de chirurgie esthétique, qui a commencé, en fait, elle a été énormément... Enfin, elle a été chassée d'Hollywood. Hein, elle a subi ce qu'on appelle, ce que Gregory Jameson appelait la double injonction, c'est-à-dire, fais-toi refaire la tronche, et puis, une fois que tu es complètement refaite parce que tu es trop vieille, on ne veut plus de toi. Donc ça, elle l'a subi, mais la vraie histoire, elle n'est pas celle-là. Ce n'est pas cette histoire un peu banale que tout le monde connaît maintenant un peu par cœur. La vraie histoire, elle est beaucoup plus fascinante, beaucoup plus passionnante à mon avis. C'est l'histoire de la peau des femmes. Elle commence là et elle commence avec ses mutilations, ses centaines de points de suture Et je cite Tippi Hedren, cet abonnement auprès d'un chirurgien esthétique de Beverly Hills, le docteur Candivar, j'ai essayé de le retrouver, mais je crois qu'il est mort, je ne l'ai pas retrouvé lui. Colombo a certaines limites. Enfin, Colombo peut parler avec les morts aussi, mais ça, on en parlera après. Donc, le docteur Candivar, donc, il y avait ce plateau, il y avait ce tournage, ça a duré 11 ans pour faire ce film. Et puis, d'un autre côté, à Beverly Hills, il y avait cet homme qui ne cessait d'accueillir la famille, qui avait un début de gangrène, qui était, et qui a dû être réparé pendant des années et des années.
Très bien. Ben, on n'en dira pas plus pour l'instant. Donc, bon, à tout à l'heure. Pour parler de ce film un peu dingue avec Hélène, donc comment Tippi Hedren est passé des mouettes au lion.
Au lion. Et l'une des folies quand même qui est l'arrière-plan de... Qui est, disons, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit la chose essentielle, j'avais qu'une chose à dire en fait. Je pense que tu as très bien parlé de mon livre et tu dis c'est avec le cinéma. C'est avec le cinéma, oui. C'est pas sur le cinéma et c'est dans le cinéma. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma ? Enfin, pour moi, j'ai mis du temps à ressentir ça d'ailleurs, qui distingue totalement la littérature, hein, disons l'unité de littérature, la phrase, et puis le plan, hein, la mise en scène, qui distingue disons l'écriture et la mise en scène. C'est, je pense, la question du trauma. Il y a quelque chose de traumatique dans toute image de cinéma, dans toute image en fait. Enfin, image, la photo, j'en sais rien, j'y connais rien, mais dans tout, en tout cas, je pense que voilà, il y a derrière n'importe quelle image, il y a un trauma qui est là. Et ce film-là, il nous montre littéralement le trauma. Donc c'est un film littéral. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et c'est sa dimension inouïe, sidérante.
Merci beaucoup. À tout de suite. C'est un peu d'actari hardcore.
Un peu limite porno par moment même, je dirais.
Mais tu arrives porno à citer animal. D'actari dans le livre.
Oui, bien sûr. C'est aussi, c'est, comment dire, vous vouliez savoir ce qui se passe quand le lion de la MGM s'anime. Eh bien voilà, parce qu'en fait, c'est un truc évident en fait, mais auquel je n'ai pas pensé tout de suite, mais c'est quand même énorme en fait de penser. Alors... Tippi Hedren était la propriété des studios Universal, pas de quand elle a été achetée vraiment pendant 7 ans par Hitchcock. Mais c'est vrai que c'est difficile de pas penser à ce lion qui est celui qui est une des images traumatiques sans doute de du cinéphile, enfin qui se fixe comme ça dans notre œil. Et derrière, on commence à apercevoir une partie des sacrifices humains qui sont faits parfois. En particulier dans les studios hollywoodiens pour faire les films. Alors, une des questions aussi qui est assez fascinante derrière le film, c'est comment, pendant 11 ans, comment avoir réuni autant d'argent pour, évidemment, tourner, faire la préparation, le tournage de ce film qui a duré 11 ans, et vous imaginez les sommes colossales qui ont été nécessaires, d'autant plus qu'il y a eu je ne sais combien de catastrophes naturelles, et que les scènes, par exemple, la scène avec l'éléphant, elle a terminé Tippi Hedren a failli avoir la gangrène. Elle a été écrasée pour de vrai par l'éléphant. Quand on l'entend hurler, elle hurle pour de vrai. Puisqu'ils ont continué à tourner, d'ailleurs. Hein, tout le monde hurlait en permanence. Donc, en fait, elle hurlait vraiment. Sa jambe a été écrasée. Elle a voulu continuer à tourner. Le docteur Candivar l'a opéré, etc. Bon. Noël Marshall lui-même a eu la gangrène. Bon. Donc, l'argent qui a permis de faire ce film, c'est celui de l'exorciste. Hein, ce que je trouve une des histoires les plus fascinantes hein, de l'histoire. C'est-à-dire que Noël Marshall, il était agent. Donc Noël Marshall, réalisateur, producteur et acteur dans le film. Donc mari de Tippi Hedren dans le film. Vous aurez remarqué sans doute que tout le monde a son vrai prénom. Mélanie s'appelle Mélanie. Mélanie Griffiths, donc la fille de Tippi Hedren, s'appelle Mélanie. Noël Marshall, Noël. Les deux fils de Noël Marshall, qui donc ne sont pas les fils de Tippi Hedren, ont leur prénom. En revanche, Tippi s'appelle Madeleine. Alors, qui est Madeleine, me direz-vous ? J'imagine peut-être que le prénom vous rappelle quelqu'un. Comme toutes les choses qui crèvent les yeux, à vrai dire, moi j'ai mis du temps à comprendre que Madeleine, c'est Madeleine de Vertigo, en réalité. Alors, elle y a sans doute pas pensé. Tout ça n'est pas pensé. Pas parce qu'elle n'est pas intelligente, c'est une femme d'une intelligence assez hors du commun. Je dis ça pour avoir lu ses mémoires, qui sont un texte très impressionnant. Les mémoires pas traduites en français, parues en 2016. Donc Madeleine, c'est le prénom de de cette femme dans Vertigo, donc qu'interprète Kim Nova, donc elle interprète deux personnages, mais celui qu'elle est censée être, hein, c'est cette femme.
C'est
donc,
le prénom de la femme fictive.
Voilà, c'est le prénom de la femme fictive qui devient la femme réelle, puisqu'il ne s'agit que de doublure et d'histoire de doublure et de revenante. Cette femme fictive qui finalement va être tuée deux fois, une première fois pour de faux et une deuxième fois pour de vrai quand elle revient, et qu'elle revient même une troisième fois puisqu'elle est reconstituée. Il y a la femme fictive, la vraie femme qui interprétait la femme fictive mais qui est la rousse vulgaire, et puis elle va être retransformée dans cette femme, dans cette Madeleine. Donc Madeleine, il y a un impensé hitchcockien inouï dans ce film, qui est ce prénom qu'elle a choisi, puisqu'elle-même, elle a coproduit le film. Elle l'a écrit. Oui, il y a un récit quand même, mais on voit bien que les dialogues sont commandés par les vraies stars du film, hein, qui sont les vraies blondes, les vraies stars blondes du film, hein, avec leurs crinières blondes, qui sont les lions, enfin les big cats. Et puis, elle a tenu surtout à être la costumière du film. Elle sortait de cette année où elle était prisonnière de Edith Head, enfin des costumes sublimes que Edith Head, qui a eu plusieurs Oscars pour ça, a fait pour les plus grands cinéastes hollywoodiens, notamment pour Hitchcock. Sauf que dans la version hitchcockienne du costume, Edith Head habillait donc Tipier de Rennes, évidemment pour les rôles, ses rôles dans les... Donc, le rôle de Mélanie, c'est vraiment essentiel l'histoire de prénom. Enfin, je veux dire, c'est essentiel si suite de voir notre premier récit fondateur occidental qui est la Bible. Il n'y a que des histoires de prénoms et comment les parents donnent les prénoms qui sont pas des prénoms, qui sont des récits en fait à leurs enfants. Toutes ces histoires de prénoms, elles sont absolument essentielles. Donc effectivement, quand Hitchcock rencontre Mélanie Griffith, Tipier de Rennes, c'est une jeune mère célibataire, fauchée, qui élève seule sa fille de 5 ans, Mélanie, la fille d'un certain monsieur Griffiths, qui a disparu dans la nature, qui ne s'est jamais occupé de sa fille et qui n'a jamais donné un rond à sa mère. Donc, elle est d'une famille elle-même assez pauvre. Tout ça, c'est très important pour l'histoire parce que ça va expliquer beaucoup l'état de suggestion dans laquelle, économique, sur laquelle Hitchcock va jouer explicitement, dans laquelle elle va tomber donc, dans ce contrat exclusif. Il la rencontre, donc elle a cette petite fille. Lui, il a déjà un scénario qui est le scénario des oiseaux, qui est donc l'adaptation d'une novella, c'est un court roman très beau écrit par Daphné du Maurier. Et comme souvent chez Daphné du Maurier, notamment dans un autre très beau livre de Daphné du Maurier adapté dans un autre chef-d'œuvre de Hitchcock, Rebecca, les femmes, et en l'occurrence les femmes et les hommes d'ailleurs dans Les Oiseaux, n'ont pas de prénom. C'est-à-dire que Rebecca, tout le monde se souvient de Rebecca, mais Rebecca n'existe pas. C'est comme dans Vertigo. C'est-à-dire que Rebecca, c'est une morte. On ne la verra jamais. On verra son image. On verra simplement son portrait. Mais là, l'héroïne du roman de Daphné du Maurier n'a ni prénom ni nom, puisqu'elle n'a pas de nom de jeune fille. Elle est adoptée par le nom de son mari. Et elle n'a jamais aucun prénom. Elle réussit ce tour de force, Daphné du Maurier, d'écrire ce livre comme ça. Donc, dans Les Oiseaux, dans le texte original, il n'y a absolument aucun nom et prénom d'aucun des personnages. Hitchcock adapte ce roman qui transforme beaucoup. C'est-à-dire, dans le livre de Du Maurier, c'est une famille. C'est une histoire un peu abstraite, comme ça, dans une communauté avec plus ou moins une famille, un village. Lui va en faire l'histoire d'un couple. Il va centrer ça entièrement autour du couple, avec la mère très présente du personnage masculin. Donc quand il rencontre, il n'a pas d'actrice, il rencontre Tipier de Rennes, ou plutôt il voit une publicité pour un produit amaigrissant, enfin une boisson de régime, un substitut de repas, Sego, à la télévision. Il pointe du doigt la télévision et il dit à ses cadres, les cadres donc du studio Universal, « Find the girl », comme dans Cendrillon, « Trouvez-moi la fille ». Donc il cherche la fille, il la trouve, il l'appelle et ils lui disent « Vous allez avoir rendez-vous avec quelqu'un, on ne vous dit pas avec qui, vous devez l'appeler monsieur et vous allez signer un contrat ». Donc, elle arrive, elle est fauchée, elle ne sait absolument pas qui elle va rencontrer, elle raconte dans ses mémoires qu'elle voit un contrat, tout est flou, elle voit 500 dollars par semaine, elle trouve que c'est une somme énorme. Bon, ce n'est pas une somme énorme, c'est beaucoup plus que ce qu'elle gagne en faisant des publicités, c'est moins que ce que gagnent les acteurs masculins de l'époque. Mais les acteurs, à vrai dire, à Hollywood, à l'époque, ne sont pas très bien payés. Ils travaillent comme des ouvriers à la chaîne, dans des petits bungalows, comme les scénaristes aussi et comme les réalisateurs en réalité, qui sont quand même mieux payés, enfin les réalisateurs. Donc elle pense que c'est une somme énorme, elle signe. Et elle est à ce moment-là la propriété exclusive d'Hitchcock. Ça comprend ce contrat exclusif qui va extrêmement loin dans la possession. Il comprend, je disais, donc les costumes, pas seulement les costumes de ses rôles, mais aussi la façon dont elle a obligation de s'habiller en dehors du tournage, les vêtements, les sous-vêtements, etc. Et puis Hitchcock va la faire suivre pour savoir, sur le tournage, mais en dehors du tournage, à qui elle parle, ce qu'elle mange, ce qu'elle boit, etc. Bon, ce qu'elle mange, elle n'a pas trop le droit de manger. Ce qu'elle boit, elle a interdiction de boire, sauf pour un essai qu'il veut lui faire tourner. C'est la seule chose, d'ailleurs, qu'il a pas faite, finalement, où il veut la saouler avec des martinis, en lui posant des questions, en la faisant boire entre chaque question, jusqu'à ce qu'elle soit ivre-morte et qu'il puisse probablement la violer, comme il va le faire, d'ailleurs, sur le tournage des Oiseaux et surtout de Marnie, mais surtout pouvoir lui poser toutes les questions qu'il veut. Mais j'étais partie sur L'Exorciste. Vas-y.
Non, tu as dévié sur Chippy Hedren.
Oui.
Donc elle s'est appelée Mélanie Daniels.
Voilà,
Mélanie. Dans Les Oiseaux, Daniels. Du nom de sa petite fille.
Voilà, donc. Il la rencontre et il vole le prénom de la petite. Et là, il se passe quelque chose, effectivement, c'est essentiel. Il se passe quelque chose, moi, qui me fait penser, je ne sais pas si vous avez vu le film extraordinaire de Coppola, Twixt. Donc Twixt qui raconte ce qui peut arriver de plus contre nature à un être humain, c'est-à-dire la mort de son enfant, hein, et de figurer dans le film de donc ce qu'a vécu Coppola, figurer dans le film de Coppola par une horloge qui tourne à l'envers. Donc là, il y a quelque chose qui se produit un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire que en volant le prénom de la fille de Tippi Hedren, en offrant pour les 5 ans de Mélanie Griffith comme cadeau d'anniversaire à sa fille, une petite boîte en forme de cercueil en sapin avec dedans une poupée miniature reproduisant comme une petite Barbie à l'identique sa mère, avec les traits reproduits à l'identique, la coiffure, le chignon des oiseaux, le tailleur robe vert amande identique, les ongles identiques, les chaussures, le sac, tout absolument. Sa mère miniaturisée est morte. Ce cadavre qui est le moment où James Stewart dans Vertigo peut coucher avec Kim Novak quand il l'a totalement cadavérisé, c'est-à-dire qu'il a reconstitué la morte et que Hitchcock place Kim Novak sous cette lumière verte de l'enseigne de l'hôtel, et que ça donne la lumière qu'il y a dans une morgue. Donc il inverse à ce moment-là, il fait quelque chose, Hitchcock, qui va être extrêmement... qui dans la lignée des mères et des filles, puisque mon livre raconte donc effectivement la grand-mère, Tippi Hedren, la fille, Mélanie Griffith, la petite fille Dakota Johnson, il y a une chose qui se produit qui va être extrêmement violente et qui va faire que en sortant exsangue, quasiment morte, hein, puisqu'un médecin est intervenu sur le tournage des Oiseaux pour faire interrompre le tournage en disant qu'Hitchcock voulait la tuer, et il a failli la tuer, enfin c'était clairement son but, je pense... À ce moment-là, elle rentre chez elle, elle est brisée. C'est la fin du tournage, elle a failli. Je vais à la fin de ce tournage, et elle devient la fille de Mélanie, c'est-à-dire qu'elle raconte. Et d'ailleurs, dans les mémoires, on ne comprend plus du tout qui est Mélanie. Est-ce que c'est Mélanie Daniels? Est-ce que c'est Mélanie Griffith? Elle est complètement brisée, elle reste accrochée, elle le restera sans doute toute sa vie, elle le restera toute sa vie accrochée à ce personnage de Mélanie Daniels. Elle fait des cauchemars, elle bascule dans des états de coma, de blackout, qui sont exactement ceux qui rythment les 11 ans de tournage et de préparation de ce film. C'est-à-dire, quand elle le raconte dans ses mémoires, Tippi Hedren, elle dit, à chaque moment où il y a une douleur insoutenable, quand l'éléphant l'écrase, quand elle est mutilée par les fauves, elle dit, comme si elle n'avait pas eu mal, « je suis tombée dans un blackout ». Voilà. Donc c'est ce qui se produit à la fin des Oiseaux, du tournage des Oiseaux. Et c'est ce qui fait que Mélanie Griffith, qui a 5 ans, doit prendre en charge cette mère qui pousse des hurlements, qui hurle non exactement comme dans la scène du film, etc. Et qui a une inversion qui se produit et qui fait que ce prénom devient quelque chose de... Enfin, cette inversion de prénom et de génération est fascinante. Par ailleurs, dans Roar, et ça c'est quelque chose pour le coup, il m'a fallu le voir des dizaines de fois pour le voir, en fait je ne le voyais pas. Parce qu'il y a quelque chose dans cette histoire qui est une histoire tragique. Hein. Là, ce que je vous raconte, c'est vraiment une histoire où il ne s'agit pas du tout de dire « Ah, Mélanie Griffith est folle » ou « Elle s'est mal occupée de sa fille ». C'est absurde, à part que moi, je ne fais pas de psychologie, donc ce n'est pas un sujet, à mon avis, qui est pertinent. Enfin, en tout cas, quand on parle, à mon avis, d'une histoire comme ça. Mais c'est vraiment la mécanique d'un récit tragique, au sens où on ne va pas dire de Médée que c'est une mauvaise mère, ça serait un peu idiot, ou d'Oedipe qu'il a une relation un peu bizarre avec sa mère. Évidemment, ce sont des personnages qui peuvent être hors du commun, qui peuvent être extrêmement puissants, qui peuvent être absolument intelligents, mais qui sont aveuglés. C'est le principe de la tragédie. Donc, cette histoire, on la voit, je pense que tu as dû le voir, moi j'ai vraiment mis du temps à la voir. Il y a deux moments dans ce film qui sont le remake, mais vraiment identique, d'une séquence des oiseaux. Je pense à la séquence des oiseaux, la pire, quand elle monte au grenier, c'est celle-là qui a mis 5 jours à être tournée. Elle en égrène les 5 jours du lundi au vendredi dans ses mémoires. Ça finit sur ce blackout où tout le monde va l'abandonner, toute l'équipe. Elle va se retrouver dans un état comateux des heures après, dans un studio plongé dans le noir gigantesque. Il faut imaginer un studio qui fait plusieurs centaines de mètres, ce plateau de tournage. Et c'est la scène donc où Mélanie Daniels monte au grenier sans aucune raison, dans une folie du personnage, et où Tippi Hedren, qui est une femme par ailleurs très intelligente, demande à Hitchcock « Mais pourquoi je dois monter ? Ça n'a aucun sens. Pourquoi mon personnage doit faire ça ?» Alors que quasiment tout le monde s'est déjà fait tuer par les oiseaux dans le village et qu'ils sont tous sur les toits. Enfin, tout le monde le sait. Donc, qu'est-ce que je vais aller foutre dans ce toit à part me faire buter, en fait ? Et Hitchcock répond cette réponse qui est vraiment la réponse du pouvoir autoritaire, on pourrait dire la réponse philosophique qu'un tyran pourrait faire à ses sujets. C'est la réponse même que certains nazis, d'ailleurs, ont fait. Enfin, je ne suis pas en train de dire que Hitchcock est nazi. Soyons clairs, je fais une analogie. Mais de fait, c'est ce que certains dirigeants nazis ont pu dire ensuite pour se justifier. C'est Hannah Arendt qui raconte ça. Parce que je te l'ordonne, en fait. Tu vas le faire parce que je te l'ordonne. Et parce que moi, je te l'ordonne, tu dois le faire. Fin de l'histoire. Donc, elle monte au grenier. Donc là, arrive ce qui doit arriver. Elle est entourée, sa robe a été entièrement entourée et tout son corps de bandes élastiques, au bout desquelles sont attachés des oiseaux, donc des vrais oiseaux, alors qu'Hitchcock lui a dit que c'était des faux oiseaux. Et ces bandes élastiques permettent aux oiseaux de prendre un peu de recul pour pouvoir mieux revenir sur elle et l'attaquer. Et en même temps, elle ne peut pas, évidemment, se dépêtrer de ces oiseaux qui vont l'attaquer comme ça jusqu'à ce qu'elle manque d'avoir l'œil crevé. Donc, la poignée ronde qui ressemble à un œil de la porte tourne, elle a une torche, elle entre dans le grenier, ça c'est les oiseaux. À ce moment-là, il y a des bruissements d'ailes, elle laisse tomber la torche qui éclaire le toit, et on se rend compte que le toit est totalement éventré, et que sur les poutres du toit sont massés des milliers de formes, de corbeaux, de mouettes, de goélands qui s'apprêtent à la massacrer. Là, il y a une scène identique avec la grosse poignée ronde, le gros œil de la porte. Donc, c'est l'un des fils de Noël Marshall qui va la tourner. Et on arrive sur le toit. Enfin, le spectateur arrive en contre-plongée, pareil, sur le toit, avec le toit déchiqueté, les poutres du toit sur lesquelles rôdent, non pas les oiseaux, mais les grands fauves. Le plan est le même et l'angle de la caméra est la même. Par ailleurs, il y a une deuxième scène. Alors là, Là, pour le coup, je l'avais vu et c'est assez. Là, c'est vraiment la scène la plus traumatique du film. C'est une scène de Marnie qui est reprise quasiment à l'identique, aussi bien dans la mise en scène que dans, disons, tout le poids traumatique de Marnie. Donc, Marnie, c'est l'histoire d'une femme kleptomane qui vole, va de boulot en boulot en changeant d'identité, de perruque, d'apparence, de nom. Elle vole donc des hommes, enfin des patrons, et elle fuit à chaque fois qu'elle a dérobé, qu'elle a réussi à voler un coffre-fort. Et donc cette Marnie, cette petite Marnie qui finalement se fait attraper par Sean Connery, donc un homme qui va lui proposer, je cite, le choix entre le mariage ou la prison, donc elle est obligée de l'épouser. Elle refuse catégoriquement d'avoir des relations sexuelles avec lui, et Hitchcock va exiger de son scénariste, son premier scénariste qui est un écrivain anglais, donc d'écrire une scène de viol. Le scénariste refuse, Hitchcock insiste, le scénariste refuse. Finalement, le scénariste a cette réponse qui est, je pense, vraiment une des phrases les plus idiotes que j'ai entendues de ma vie, je trouve drôle. Hitchcock lui dit « Mais pourquoi vous refusez d'écrire ?» Parce que c'est son employé. Il lui dit « Mais j'ai peur que ça rende le personnage antipathique. » C'était précisément l'idée, en fait. Je ne pense pas que c'était pour rendre le personnage sympathique. Hitchcock lui avait demandé une scène de viol, donc il vire le scénariste. Il dit « Ok, tu dégages ». Et il va prendre J. Preston Allen, qui est une femme assez oubliée de l'histoire du cinéma hollywoodien, remarquable écrivaine, scénariste, qui va écrire plus tard « La cage aux folles », qui est communiste, et qui arrive sur le tournage, très féministe, qui va en vélo sur le tournage, qui est un détail très important quand on sait à quel point Hitchcock, qui veut lui envoyer une limousine, elle refusera sur tout le tournage de Marnie, va coincer Tippi Hedren dans des limousines. Il lui dit, il me faut une scène de viol. Elle lit le scénario, elle dit, ah bah oui, ça, je suis bien d'accord avec vous, il vous faut une scène de viol, je vous l'écris tout de suite. Elle écrit la pire scène de viol, je pense, de l'histoire du cinéma, qui est la séquence de viol de Marnie, à l'issue de laquelle Tippi Hedren, son personnage, va essayer de se suicider et être attrapé in extremis. Donc, à l'origine de cette histoire de Marnie, il y a une petite fille dont la mère était une prostituée, qui a été violée par des clients, et un des clients ayant essayé de violer la petite fille, la mère le défend, le client essaye de la tuer, et Marnie va tuer cet homme qui, à ce moment-là, tombe sur sa mère, il est mort, et la mère hurle qu'elle a mal à la jambe, qu'elle ne peut pas bouger, et ensuite, quand on reverra la mère de Marnie pendant le film, donc le flashback arrive assez tard dans le film, on verra que cette femme boite, et on comprendra peu à peu d'où vient cette infirmité. Donc la scène, elle est rejouée par Mélanie Griffith, vous vous souvenez sans doute de cette scène où l'un des fauves tombe sur elle, et le dialogue est identique. Alors, est-ce que Tippi Hedren y a pensé ? Je suis, à vrai dire, sûre que non. Encore une fois, pas parce que Tippi Hedren ne pense à rien, c'est vraiment pas le cas, mais parce qu'il y a quelque chose du côté de la tragédie qui doit se rejouer dans cette histoire-là, qui doit se rejouer, et c'est ce qu'on a sous les yeux, et c'est l'effet, je trouve, de sidération de ce film. Par ailleurs, comme je le disais, financé par l'exorciste, puisque Noël Marshall, qui donc était l'agent de Tippi Hedren, pour échapper à Hitchcock, elle l'épouse. Elle dit, c'était une très mauvaise idée, mais il fallait que je m'enfuie, donc j'ai épousé le premier venu, je ne l'aimais pas, je l'épouse. Il était complètement fou, Noël Marshall, vous avez une petite idée en voyant le film, qu'il faut être quand même franchement dingue pour faire ça. Il s'est transformé peu à peu en lion, littéralement, je veux dire, c'est-à-dire elle le dit, mais de fait, là encore, il a un peu les cheveux courts, mais à la fin du tournage, il y a des photos de lui avec une énorme crinière, une barbe jusque-là, il se transforme. Et puis la violence du lion, c'était un type totalement incontrôlable. Et il a donc coproduit l'Exorciste, qui a rapporté énormément d'argent et qui n'a cessé de pouvoir alimenter ce tournage, sachant que Tippi Hedren, à un moment, se demande s'il n'y a pas quelque chose aussi d'une forme d'envoûtement de ce tournage qui était vraiment marqué par des catastrophes à répétition, comme s'il y avait une sorte de diable de l'Exorciste, une malédiction de l'Exorciste qui se transmettait aussi, qui se transvasait sur ce tournage-là. J'ai trop parlé.
Mais ce que raconte Hélène, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment imaginer que la comédienne entre les mains d'Hitchcock, qui a tellement souffert, à qui on a envoyé des mouettes, qu'il a piqué à la gueule pendant 5 jours, elle se retrouve dans sa nouvelle vie avec un mari à refaire la même chose.
En pire.
Et à mettre sa propre petite fille, Mélanie Griffith, en danger, puisque la gamine, elle a quel âge, là, Mélanie Griffith ?
Elle a 13 ans, là, elle doit en avoir 15, mais quand toute l'histoire commence, elle a 13 ans. Et une des règles que Noël Marshall édictait dans leur maison, une grande partie du film a été tournée en Californie, à Los Angeles, mais donc dans la villa de Beverly Hills où ils vivaient et où ils avaient acheté des meubles hors de prix, des magnifiques canapés, des fringues de luxe sublimes, etc. Tout se passait exactement comme ce qu'on voit là. C'est-à-dire, elle raconte comment les meubles sont déchiquetés, etc. Mais surtout, Noël Marshall donc, avait édicté une règle qui était pas de porte fermée, ce qu'il dit à un moment dans le film. Pas de porte fermée dans les chambres, et donc ils dormaient tous avec les fauves. Et il y a une réplique dans le film qui s'est produite à l'identique. Donc Mélanie dormait notamment avec Casey qui était un lionceau. Alors il faut imaginer la taille du lionceau, c'était un espèce de truc gigantesque. Et ce Casey qui était donc non dressé, puisque l'idée de cette actrice qui avait été... Alors à vrai dire, c'est un lecteur qui m'a dit ça, je n'y avais même jamais pensé, alors que ça crève les yeux à nouveau. En effet, elle avait été entièrement domestiquée. Tippi Hedren, particulièrement dans le système hitchcockien, dont Vertigo dévoile l'art poétique. Hein. C'est cette idée, en effet, complètement baudelairienne, on pourrait dire, ce délire baudelairien de complètement, domestiquer intégralement la femme, et puis l'actrice, et puis l'enfermer aussi dans un lieu. Elle est toujours prisonnière d'un lieu. Là, on voit comment elle est dehors en permanence. Donc, la petite Mélanie dort avec le fameux Casey, et à un moment, Casey, qu'est-ce qu'il fait? Il la mord jusqu'au sang, c'est un lion. Hein. Donc, et Tippi Hedren dira très clairement dans ses mémoires, on ne peut rien attendre d'autre d'un animal sauvage à part d'être un animal sauvage. Elle le sait, en fait. Donc, la petite hurle, sa mère se précipite au milieu de la nuit, elle trouve sa fille entièrement ensanglantée avec une bonne partie de la cuisse arrachée, et elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu lui as fait? Et elle raconte ça dans ses mémoires. Qu'est-ce que tu lui as fait? Donc, cette histoire, effectivement, c'est une... Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Tippi Hedren n'aime pas Mélanie Griffith. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le sujet, d'une certaine manière, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'histoire de John Crawford. Ce n'est pas Marlène Dietrich, si on veut entrer dans une autre mythologie des relations mère-fille à Hollywood. C'est tout à fait une autre histoire. Par ailleurs, il y a peut-être quelque chose... Bon, il y a quand même beaucoup la question de la peur hein, derrière tout ça, sachant que si L'Exorciste, qui est un film extraordinaire, quand on lit récemment, moi j'ai lu assez récemment, enfin j'ai lu hier il y a 2-3 ans les mémoires de William Friedkin, donc le réalisateur de L'Exorciste que j'avais jamais lu, c'est assez effrayant les mémoires de William Friedkin, d'autant plus que c'est quelqu'un qui ne se masque pas, enfin assez peu disons, donc il masque assez peu la manière dont il a traité les acteurs et notamment toute la théorie de la gifle qu'il a, hein, où il giflait très violemment, mais au point de démettre le cou d'un acteur, les acteurs, donc il y avait une violence qui s'exprimait. Par ailleurs, L'Exorciste, c'est un film, officiellement, c'est un film sur, je sais pas, Jésus, le satanisme. Jésus, je pense que Friedkin s'en fout, mais alors...
Sur le diable, surtout.
Voilà, le diable, enfin, le diable peut-être l'intéresse un peu plus que Jésus, qui l'intéresse clairement pas du tout. Mais c'est quand même, si on regarde l'histoire, par ailleurs d'une mère qui vit seule avec sa fille, le père est loin, très loin, il reviendra pas d'ailleurs, la mère est en train de divorcer, donc c'est ce couple mère-fille, et la fille, elle a 13 ans, cet âge à peu près là de Mélanie Griffith, c'est une adolescente, et dans le regard de la mère, elle a quelque chose qui devient monstrueux, comme un adolescent a quelque chose, traverse un moment, enfin tous les êtres humains à l'adolescence, ce moment de monstruosité du corps, du psychisme, qui fait que c'est ni un enfant, ni un adulte, etc. Donc, c'est un film qui raconte beaucoup, à mon avis, L'Exorciste, cette relation, comme ça, de ce regard qui change complètement et qui fait de la fille à un moment un monstre sans qu'elle ne le soit. Donc, je trouve particulièrement intéressant.
C'est-à-dire le regard d'une mère sur sa fille qui est en train de devenir pubère.
Exactement. Ouais. Ce qu'on voit d'ailleurs assez clairement au début hein, du film-là sur le. Young lady, attention, t'es obsédée par le cul, quoi. En gros, c'est ce que dit. Et on voit bien que c'est. Et d'ailleurs, hein, sur ce tournage, elle va rencontrer Don Johnson, Mélanie Griffith. Don Johnson, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui s'est déjà marié 3 fois, et dont Tippi Hedren dira qu'il est beaucoup plus dangereux. Quand elle le rencontre, elle comprend qu'il est beaucoup plus dangereux qu'un des animaux sauvages, un des fauves. Hein. Mais qu'elle ne peut pas empêcher sa fille de l'épouser, elle va l'épouser, etc. Donc, il y a beaucoup d'histoires de fauves. Et je disais, oui, je parlais de L'Exorciste. Pour ça, c'est l'action de la peur, en fait. L'action de la peur, évidemment, qui est centrale hein, dans ce film. Je disais, c'est un snuff movie. Je trouve qu'il y a un côté porno dans certains... dans le filmage, parfois, hein, c'est, sur les animaux. Hein, une sorte de porno animalier, c'est-à-dire cette manière de filmer de très près, comme ça, les animaux, la gueule des animaux ouverte et tout. Et donc la question de la peur là, elle est déplacée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que ce qui a conduit Tippi Hedren à épouser Noël Marshall, à se lancer, à tomber amoureuse de ces lions, comme elle le dit, hein, elle dit je suis tombée amoureuse des lions, et à se lancer dans ce projet complètement fou que la peur aurait arrêté n'importe quel autre être humain de le faire, une peur sensée. C'est cette terreur qu'elle avait vécue. Sur le tournage d'Hitchcock, une terreur absolue, telle qu'elle le raconte, une terreur qui a été qu'elle a fui. Et je pense qu'il y a quelque chose, sans doute, dans ces animaux font moins peur qu'Hitchcock, en quelque sorte. Pourquoi ces animaux font moins peur qu'Hitchcock ? Parce que ce sont des animaux et que ils sont pas méchants, ces animaux, comme elle le dit. Hein. Alors, ils peuvent vous buter en deux secondes, ils peuvent vous déchiqueter. Ils peuvent pas, ils l'ont fait. Hein. Ils peuvent mutiler au tout début du film, hein, au tout début du tournage. Mélanie Griffith a le visage mutilé et elle dit « j'arrête ». Elle arrête pendant 48 heures. Elle dit à sa mère « je ne veux pas y perdre mon visage ». Ce qui, pour un être humain et une actrice, évidemment, est une phrase assez forte. La mère comprend, bon, elle dit qu'elle comprend. Deux jours après, la fille revient, et elle, pas deux jours après, le lendemain, elle revient, et elle lui dit exactement la même phrase qu'on retrouve dans les mémoires de Tippi Hedren lorsqu'elle parle du tournage des oiseaux, où elle dit « j'irai jusqu'au bout », elle répète en permanence « j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout ». Et elle va sur le tournage en disant « je ne le laisserai pas me briser, j'irai jusqu'au bout », elle se répète ça, comme un peu comme un employé martyrisé qui va aller jusqu'au bout, etc. Donc, la question, disons, du sadisme d'Hitchcock est une question extrêmement mystérieuse, hein, enfin, une question philosophiquement mystérieuse, qui ne s'adressait pas qu'aux femmes, d'ailleurs, hein, et aux actrices sur son tournage, puisqu'il a fait avec ses techniciens, il le raconte, hein, il le raconte notamment à Truffaut, des, entre guillemets, blagues consistant à attacher un technicien à un poteau après lui avoir donné des laxatifs et à le laisser comme ça plusieurs jours attaché tout seul. Pour exemple d'une des blagues où il embauchait très souvent des comédiens pour humilier pendant les repas qu'il faisait sur les tournages certaines personnes qui étaient présentes et en créant un malaise énorme puisque personne ne savait que cette personne qui arrivait là, un serveur par exemple, qui n'était pas un serveur mais qui était un comédien, pouvait humilier bon, très cruellement quelqu'un. Donc cette question du sadisme humain, cette question du mal en fait, MAL, qui est une question... quand on parlait de mal radical, qui est une question effectivement tellement radicale qu'il est très complexe d'avoir une réponse, elle fait très peur. La cruauté, enfin cruauté, non, on ne peut pas parler de cruauté des animaux. La violence des animaux, la violence physique des animaux fait probablement moins peur. C'est ce que j'ai fini par me dire, en fait. D'une certaine manière, le lion fait beaucoup moins peur qu'Hitchcock. Ou qu'un type d'agresseur, celui qu'elle a appelé un médecin, quand elle a craqué, la seule fois où elle a craqué sur le tournage, elle l'a traité de gros porc, alors que c'est suite à une des nombreuses tentatives de viol dans sa loge. C'est-à-dire
qu'elle l'a traité de gros porc une fois qu'il lui a sauté dessus.
Oui, enfin, ouais. Il l'avait fait plus...
L'avait fait plusieurs fois, oui.
Et à vrai dire, c'est pas ça qui l'a fait craquer, c'est là où c'est assez intéressant. La chose qui l'a fait craquer, c'est quand elle a appris que, en son nom à elle, donc... sans la consulter, sans même la prévenir, il refusait, alors des propositions, notamment il y a eu une proposition de Truffaut, des propositions de rôle qui lui étaient faites, et puis quand pour les oiseaux, quand pour Marnie, non c'était les oiseaux pardon, elle a reçu le prix de la meilleure actrice et qu'elle devait être, donc aller à la cérémonie qui se passait à New York, et puis qu'elle était invitée à l'émission de Johnny Carson donc à l'occasion de ce prix, il a refusé les deux en son nom, sans le lui dire. Il a dit, il parlait en son nom, en fait. C'est-à-dire que la question du regard, qui est évidemment centrale pour une actrice, mais qui, avec un metteur en scène comme Hitchcock, devient à la fois le cœur même, enfin l'œil du cyclone, on peut dire, du génie de sa mise en scène, et aussi de sa domination, du type de domination absolue qu'il a exercé, notamment sur Tippi Hedren, là, on voit que ça va jusqu'à la question du droit de regard. Hein. C'est-à-dire, il a un droit de regard juridiquement. Elle est destituée de... Elle est, comme on dit, elle est en état de minorité, comme disait Kant. Je suis obsédée par Kant, mais... Elle est en état de minorité, c'est-à-dire, elle n'a pas une personnalité juridique d'adulte. Elle est comme une enfant. Tippi, ça veut dire petite fille. C'est comme ça que son père l'a surnommée, Tippi Hedren. Elle s'appelait Nathalie. Il l'a appelée Nathalie, et puis après, il trouvait que c'était trop sérieux comme prénom pour un bébé, et qu'il allait l'appeler Tippi. Quand Hitchcock l'a rencontrée, il a décidé que ce prénom, Tippi, il a fait une chose qui est, tu me diras si je me trompe, mais à ma connaissance, inédite, et qui ne s'est jamais faite, et je pense ne se refera jamais dans l'histoire du cinéma, c'est de prendre le prénom d'un acteur ou d'une actrice, et de l'insérer, entre deux griffes, hein, qui ne sont pas des guillemets, mais qui ressemblent, qui sont comme, oui, deux griffes. Donc Tippi, vous verrez, mais ça c'est quelque chose qu'on ne remarque pas hein, les premières fois qu'on voit les films, que si vous voyez, si vous revoyez les oiseaux et Marnie, donc Tippi apparaît comme ça. Et ça c'était spécifié dans le contrat. C'est-à-dire que dès qu'elle signe le contrat, elle signe que son prénom Et il marque sa propriété physiquement par ces deux apostrophes. Alors, que signifiait-elle exactement dans l'esprit d'Hitchcock ? Il ne s'en est jamais expliqué à ma connaissance. Il a revendiqué de l'avoir fait. Mais de fait, c'est une propriété absolue. On est vraiment dans une monarchie absolue avec ces règles-là. Et elle craque à ce moment-là. Quand elle... c'est étonnant d'ailleurs. Enfin, c'est ce, bon, alors après, c'est le fameux truc de la goutte d'eau qui est qu'on a supporté 40 milliards de trucs abominables et qu'on va craquer juste parce qu'on a perdu une boucle d'oreille. Bon, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette idée quand même de quelqu'un qui répond pour elle. C'est vrai que c'est terrifiant. Je trouve ça vraiment très effrayant, cette idée qu'il ait répondu et qu'elle était un peu comme la Belle au bois dormant avec son blackout derrière un mur de ronces qui était sous contrat exclusif, et qu'un cinéaste, par exemple, comme François Truffaut ou Édouard Dmytryk, pouvait officiellement envoyer des propositions de rôle à celle qui était devenue une star grâce aux oiseaux, et qu'elle n'était même pas au courant de ces propositions. Elle ne pouvait même pas dire non.
Qui avait le micro ? Monsieur.
Oui, c'était moi. Bonsoir. Alors, on est à la Cinémathèque, et voilà, j'ai lu votre livre, j'ai lu les mémoires de Tippi Hedren, et le portrait que vous faites d'Alfred Hitchcock, il est tellement horrible. Vous allez beaucoup plus loin que Tippi Hedren dans cette accusation, puisque vous l'accusez d'être presque un meurtrier. Je ne dis pas une bêtise, hein. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, à vrai dire, je cite les mémoires de Tippi Hedren. Hein.
Elle n'accuse jamais d'être un meurtrier, hein. Vous devez avoir voulu la tuer.
Ah non, elle cite le médecin qui l'a animé.
Et vous dites plusieurs choses qui sont, je suis désolé de le dire, factuellement fausses. Je ne vais pas m'étendre dessus. Le prénom volé, Evan Hunter, le scénariste d'Alfred Hitchcock, a écrit un livre qui s'appelle Hitchcock et moi, dans lequel il explique qu'en septembre 61, donc 2 mois avant d'avoir engagé Tippi Hedren, il écrit le scénario des oiseaux, il appelle le personnage Mélanie, il s'amuse par la suite, il s'amuse de la... du fait que ce soit qu'il y ait une coïncidence et que le prénom de la fille de Tippi Hedren soit Mélanie Griffith, donc comme le personnage. Donc Hitchcock n'a pas volé le prénom de
moi. Tippi Hedren. Moi récemment j'en ai parlé avec quelqu'un qui connaît bien, qui l'a bien connu, qui est Jonathan Coe. Moi je pense personnellement qu'Evan Hunter est un idiot, mais je pense vraiment, enfin je le dis, mais je pense que cette histoire est fausse. Il a été extrêmement blessé d'avoir été viré par Hitchcock du tournage. Hitchcock n'était pas du tout content de son scénario. Et vraiment, voilà, cette version des faits me paraît...
Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, en fait.
Quelle information ?
Qu'il a volé le prénom, je ne sais pas d'où vous la tenez.
Comment ?
Qu'il a volé le prénom de Mélanie Griffith pour le donner au personnage. D'où vous tenez cette information ?
Que qui a volé ? Je vous parlais d'Evan Hunter.
Hitchcock.
Je sais, attendez, on va...
Vous dites que Hitchcock a volé le prénom.
Oui, d'accord.
Non, mais d'où ça vient, en fait ?
Juste une chose.
Je suis désolée d'avoir
l'air un peu...
Oui, mais
vous êtes assez agressif, monsieur, je vous le dis. Donc, j'ai l'impression, là, en 2 secondes, de me trouver dans une espèce de tribunal. Donc, d'abord, je vais repartir calmement des choses. Je suis écrivaine, romancière. Donc, en effet, tout ce qui est quasiment l'essentiel de ce que vous avez lu, donc, puisque vous avez lu mon livre, « Trois femmes disparaissent », est le fruit d'une enquête très longue, hein, puisque j'ai travaillé très longtemps sur ce livre, hein, que je me suis fondée entre autres sur ses mémoires, mais sur un travail que j'ai fait, et que ce que je dis est référencé, notamment en notes, ce sont des choses qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler, en termes américains, de la non-fiction, donc qui est documentée. Cependant, il s'agit d'un roman. Il s'agit d'un, si vous permettez.
En fait, je ne comprends pas ce qui vous gêne, voilà. Monsieur, parce que tout ce qui est les relations entre Tippi Hedren et Hitchcock, on sait tout ça depuis très longtemps. Hein.
Alors, oui, mais
il n'y a rien de très nouveau dans cette affaire.
Je suis tout à fait d'accord.
Et je termine juste. Donc, il fait 2 films avec elle, Les Oiseaux et Marnie. Hélène me corrige si je me trompe. Elle a signé le fameux contrat de 7 ans,
oui.
Qui, vous savez, était le contrat type à Hollywood. Et donc, comme en fait, elle a refusé ses avances, hein, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, et tout le monde le savait. À la moitié à peu près, ou plutôt aux 2/3 du tournage de Marnie, Hitchcock comprend que ça marchera pas, il couchera pas avec elle, il se désintéresse totalement du film, le film ne l'intéresse plus, il veut juste le finir. Pour parler à Tippi Hedren, il demande à ses assistants d'aller voir This Girl, je crois, hein, c'est ça.
The girl,
voilà. Aussi, ouais. Donc il refuse même de lui parler. Je termine juste. Il refuse même de lui parler directement. Et ensuite, ce qui est terrible, à la limite, déjà tout ça, c'est pas mal. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il reste 50 contrats. Et que donc, pendant ces 50 contrats, elle va être payée les fameux 500 dollars par semaine avec l'interdiction absolue de travailler avec qui que ce soit d'autre. Voilà. Tout ça est très documenté dans toutes les biographies d'Hitchcock.
Par ailleurs, je n'ai pas... Fahrenheit 451, ça a été démenti par la fille de Truffaut, par exemple.
Écoutez, moi, je n'ai pas écrit un livre à thèse pour dire Alfred Hitchcock est un salaud. Ce n'est pas...
Un peu quand même.
C'est d'ailleurs pas du tout ce que je viens de dire. Voilà. Je vous dis juste que, vous savez, tout ça, pour tous les gens qui apprécient les films d'Hitchcock, c'est vieux comme le monde. Hein. Hitchcock, quand il parle à Truffaut, il lui dit « Considérez-moi comme un célibataire, je suis un abstentionniste. »
Oui,
c'est-à-dire qu'il dit à un disciple, Truffaut se considérait comme son disciple, et à son plus grand admirateur, « Je n'ai pas de vie sexuelle. » Voilà, oui, c'est aussi simple que ça.
Et on accuse d'être un violeur, donc.
Voilà, et ensuite, il a passé toute sa vie à ce qu'on appelle en art, mais c'est elle la philosophe, pas moi, à sublimer.
Alors, moi, je suis pas complètement d'accord.
Et que le vieux monsieur des oiseaux et de Marny, eh ben, la sublimation, visiblement, lui suffit plus. Mais Hélène va nous dire si elle est d'accord ou pas.
Alors, par ailleurs, il y a une question, je dirais, éthique. Là, je parle en tant qu'écrivain. Donc, encore une fois, je suis pas censée venir dans une salle de tribunal justifier.
Non, c'était pas le but.
Vais essayer de finir une phrase. Donc, la question éthique, c'est le point de vue. Elle se pose aux écrivains, elle se pose aux cinéastes, à vrai dire, elle se pose à tous les êtres humains, à mon avis. Donc, mon point de vue, c'est celui d'une lignée de femmes et de mères et de filles qui sont donc la grand-mère, Tippi Hedren, sa fille et sa petite-fille. Voilà mon point de vue et je ne le lâche pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je ne m'intéresse à ce qui se passe dans la tête d'Alfred Hitchcock. Ce n'est pas mon sujet. D'autant plus, je le répète, que je ne fais pas de psychologie.
Pourtant, vous permettez de dire qu'il a volé le prénom. Donc,
oui, en effet, j'interprète entièrement, comme l'auteur d'une tragédie le fait, cette histoire, intégralement, avec la dimension tragique du cœur, dont la fonction dans les tragédies, et de mettre le spectateur avec un personnage. Si vous lisez Antigone, vous verrez que le cœur est présent quand Antigone est là, elle-même, et lorsque Créon, à la fin, arrive et parle, et Dieu sait s'il parle, il monologue, ça dure des plombes, son monologue de Créon, le cœur se barre, il n'est plus là. Ça, c'est une question éthique d'écriture. Voilà les seules questions que je me pose. À partir de là, en effet, l'écriture, c'est une forme médiumnique d'interprétation. Si vous voulez que je vous disent en tant qu'écrivain ce que je pense, je suis convaincue effectivement que tout ce que j'ai reconstitué dans la lignée de ces femmes est vrai. Bien sûr que je sais très bien que le mot vérité que j'emploie là, c'est le mot vérité qui est la vérité de la fiction. Hein. Mais c'est le boulot. Voilà. Donc à partir de là, oui, dans cette histoire-là, en effet, il y a eu des tentatives de meurtre. Alors après, vous pouvez les interpréter littéralement selon l'article 32 du code pénal ou je ne sais quoi. Ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. Cependant, elle a failli mourir, oui, et c'est ce que le médecin a dit très clairement. C'est ce que Cary Grant, venu sur le tournage, lui a dit clairement, lui disant « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux que vous. » C'est quand même assez étrange pour tourner un film, de devoir être la personne la plus courageuse du monde. Théoriquement, ça ne fait pas partie de la fiche de description de job description. Voilà. Donc, encore une fois, le sujet n'est pas une attaque. Le sujet n'est pas de faire le procès d'Alfred Hitchcock. Ce n'est pas mon sujet. En revanche, il y a le personnage qu'on pourrait appeler d'ogre dans ces récits qui sont des récits, ces récits primitifs qui sont ceux des contes de fées. J'ai cité Cendrillon, j'ai cité La Belle au bois dormant. On pourrait dire qu'il y a Boucle d'or aussi dans l'histoire. On pourrait dire qu'il y a Le Petit Chaperon Rouge. Donc, et dans l'histoire, bien sûr, c'est l'ogre. Elle l'appelle le gros porc à un moment. Elle le traite de gros porc devant tout le monde. Et ce qui est passionnant, je trouve, moi, dans l'histoire, c'est d'abord, comme je le disais, qu'est-ce qui l'a fait craquer, elle? Mais surtout, c'est sa réaction à lui. C'est-à-dire, là, et pour le coup, son biographe officiel qui lui a bien ciré les pompes. Donc ça, je pense que C'est la version officielle d'Hitchcock, telle qu'il l'a, il l'a revendiquée, mais cette phrase est vraiment, moi, je trouve extraordinaire. Il dit « elle a franchi une ligne ». Alors, 5 minutes avant, il a essayé de la violer sauvagement dans sa loge. Elle le raconte dans les mémoires. Elle dit qu'elle ne peut pas même pas aller jusqu'au bout du récit, je cite, « tellement c'est la chose la plus hideuse », je cite, et l'adjectif « hideux » reviendra un nombre de fois, vraiment de manière très nombreuse, sous sa plume quand elle parle des attaques dans cette loge, sachant qu'il avait fait construire, lui-même il avait son bureau à côté, exprès il y avait un passage qui faisait qu'il pouvait entrer, c'était un plan incliné, dans la loge de Tippi Hedren sans que personne ne le voie y entrer, ne sache qu'il y était entré. Donc il se jette sur elle, il fait soit une tentative de viol, soit un viol, je ne sais pas, en tout cas c'est quelque chose, elle ne peut pas en parler tellement c'est insoutenable, dit-elle, et hideux. Juste après, elle apprend que donc, juste après, en sortant de la loge, pour aller sur le plateau, qu'il a refusé en son nom toutes ses propositions, et là elle craque, et elle hurle le pape, c'est pas son genre, elle dit « fat pig ». Gros porc. Et là, il dit, elle a franchi la limite que personne n'a le droit de franchir. Et c'est là que ça devient très intéressant.
Il dit exactement, et je reprends ton livre, elle a fait ce que personne n'a le droit de faire.
Voilà.
Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de rigoler.
Oui.
Parce que
mais oui, mais c'est
parler drôle. De mon poids.
Voilà.
Voilà. Elle a fait ce que personne n'a le droit de faire, parler de mon poids.
Alors moi, je trouve la scène extraordinaire parce qu'il y a tout. C'est-à-dire qu'apparemment, ça ne lui traverse pas l'esprit que peut-être personne n'a le droit de faire ce qu'il a fait 5 minutes avant dans la loge. Il ne voit même pas où est la gravité inouïe de ce que lui a fait, la dimension, le caractère inhumain, disons, de ses actes à lui. Et surtout, nous sommes dans un système hollywoodien, et pas seulement dans un système hollywoodien. Et là, je pense que la question, elle va largement au-delà d'Hitchcock. Elle va, si on pense à la question de la prédation et du regard comme prédation, elle s'adresse aussi aux spectateurs qui ont ce regard sur les acteurs et particulièrement les actrices, de les suivre, de les regarder, de traquer la moindre ride, de traquer le moindre kilo, de les regarder pas seulement sur l'écran des tournages, mais quand ils rentrent chez eux, dans les journaux à scandale à la con, etc. Donc le fait que même leur corps ne s'appartient plus, particulièrement les femmes, dont on sait bien que le critère de jugement socialement n'est pas le même que pour les hommes et que c'est agrandi pour les acteurs, parce que les acteurs font en grand ce que font les femmes actrices, font en grand ce que font toutes les femmes. C'est un agrandissement de la condition féminine et de la condition humaine. Donc je trouve génial qu'à ce moment-là, Alfred Hitchcock dise, et de fait, si vous regardez, personne ne parle jamais du corps des cinéastes, personne ne dit, putain, lui, qu'est-ce qu'il est moche. Jamais, ça n'arrive jamais. Donc, il a raison de souligner ça aussi, en quelque sorte, mais en le soulignant, soudain, il y a toute une dissymétrie derrière qui apparaît et qui fait que, moi, j'ai éclaté de rire quand j'ai lu ça. Je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est là, éthiquement, où t'en es arrivé, mec, c'est fort, quand même. Elle a critiqué mon poids. Et pour ça, il va la briser. Pour ça, il le lui dit ensuite. Il lui dit, je vais briser votre carrière. Et il va s'y employer.
C'est le fameux, vous ne travaillez... Non, mais on va arrêter la conversation, si vous voulez bien. On va changer de contradicteur. Mais c'est le côté... Mais parce que, en fait, je n'arrive pas à comprendre ce qui vous choque, mais ce n'est pas grave.
Il y a plein de choses qui sont fausses factuellement. Voilà, c'est tout. C'est éprouvable.
Donc, c'est le fameux, vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Vous voyez, qui a dans les comédies américaines et hollywoodiennes. Vous ne travaillerez plus jamais dans cette ville. Et bien, c'est exactement ce qu'il lui dit. C'est exactement ce qu'il lui dit. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pendant 5 ans. Ça, au moins, on en est sûr. Elle n'a pas travaillé pendant 5 ans.
Oui, moi, je voudrais revenir un peu au film de ce soir. Dire déjà qu'il est extrêmement impressionnant visuellement, surtout en gros plan. Et je pense que ça se comprend parce que ça devait être assez difficile de montrer des plans d'ensemble où on voyait tout se produire. J'ai juste un petit regret. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de crocodile dans la scène. Bon, je plaisante.
Pour les crocodiles, vous revenez la semaine prochaine. Hein, parce qu'on a une certaine suite dans les idées. Et il y a, si vous voyez dans le programme, il y aura des crocodiles. Ça sera toujours Mélanie Griffiths et elle va se prendre quelques crocodiles. Ce sera en Floride cette fois-ci.
Bien.
Un très très beau film d'Arthur Penn qui s'appelle La Fugue, qui est le premier rôle officiel de Mélanie Griffiths. Son premier rôle officiel à l'écran, alors qu'en réalité, elle avait joué, mais avec la durée, disons, du tournage, Roar est sorti en 81, donc est sorti après, officiellement.
Et bon, alors la question plus sérieuse, tout ce que vous dites à propos du film et des coïncidences ou des références à la carrière de Tippi Hedren semble très convaincante, jusqu'à se demander, et c'est la question que je voudrais vous poser, mais qui a eu l'idée du film? Comment se sont répartis les rôles, Noël Marshall, etc. Parce que, bon, vous l'avez bien dit, Noël Marshall, manifestement, avait dans sa maison les félins, il a voulu les faire jouer, il a dû avoir l'idée de mettre en scène un peu sa passion pour les fauves. Mais il y a tellement d'éléments qui sont issus de la vie de Tippi Hedren qu'on peut se demander quel a été son rôle, si Noël Marshall était tellement fasciné par elle qu'il a en quelque sorte pris son histoire pour la représenter, ou si elle-même a participé à la conception du scénario, etc.
Alors en fait, c'est effectivement, c'est une très bonne question, parce que la réponse est assez fascinante. Je ne sais pas si vous avez vu le film Days of Wine and Roses, hein, le film de Blake Edwards. C'est en français, ça doit être des jours de...
Du vin, vin et des roses, oui.
Voilà. Film extraordinaire parce que donc c'est un film sur l'addiction, enfin en l'occurrence l'alcoolisme, mais qui est très, à ma connaissance, bon, je connais pas, j'ai pas vu tous les films du tout, mais moi c'est le seul film que j'ai vu qui soit un film sur l'addiction à deux. C'est-à-dire que c'est l'histoire non pas de comme on le voit souvent, d'un alcoolique ou d'une alcoolique ou d'un toxico ou d'une toxico, mais c'est l'histoire de deux personnes qui ont besoin de se rencontrer pour que leur rencontre déclenche l'addiction. Et notamment la scène extraordinaire dans le film de Blake Edwards, je me souviens, c'est cette scène où ils sont au restaurant, donc c'est un date, enfin comme ça, une première rencontre. Ils sont au restaurant et donc lui a déjà un peu quand même tendance à picoler pas mal et il va comprendre qu'elle est accro aussi, qu'elle a un côté accro, dans son rapport au chocolat. Il y a un truc qui se passe avec le chocolat à partir de là, ils se mettent en couple et là, ça va faire exploser complètement leurs addictions, mais à deux. C'est vraiment la même histoire avec eux. C'est-à-dire qu'ils étaient... Donc, elle s'enfuit, elle épouse, comme elle le dit, le premier venu, Noël Marshall. C'est son agent. Hitchcock est furieux, mais ça lui permet de s'enfuir. Elle s'enfuit. Il se trouve qu'à ce moment-là, il produit un film en Afrique, au Mozambique, Satan's Harvest. Donc, elle va sur le tournage, où est donc Noël Marshall qui produit le film. Et là, à un moment, donc il y a un jour off, ils vont se promener. Et puis, il tombe sur une maison, enfin une maison abandonnée, une espèce de vieille maison coloniale à moitié détruite, et qui a été entièrement réinvestie par une famille de Lyon. Et elle décrit pendant une page de ses mémoires, deux pages même, de manière magnifique d'ailleurs, le coup de foudre qu'ils ont mis. C'est-à-dire, c'est le mot qu'elle emploie, elle dit « nous sommes tombés amoureux ». Et là, elle décrit... le père lion, la maman lion, elle les décrit avec un regard très, bon, comme on a tout sur les animaux, hein, anthropomorphique, avec, elle dit, il ne manque plus que son whisky et son cigare, le chapeau. Et il y a une fascination, et surtout, comme juste avant, elle a décrit, c'est hilarant d'ailleurs, son mariage avec Noël Marshall, en disant qui, genre who, why, enfin, clairement en disant, j'en ai rien à foutre de ce mec, je prends le premier venu. On a l'impression qu'elle aurait pu, pour le coup, traverser la rue, comme dirait Macron, pour choper le mec de l'autre côté de la rue, juste pour échapper à Alfred Hitchcock. Bon, c'est tombé sur Noël Marshall. Et là, alors que juste avant, rien ne les liait, à part ce mariage qui était vraiment un peu n'importe quoi, ils ont un truc à deux. Ils tombent amoureux ensemble. Elle le raconte, c'est fascinant. Ils ont un coup de foudre. Et là, ils se regardent sans un mot. Ils ont la même chose dans les yeux. Et Noël Marshall dit, on devrait en faire un film. Juste ça, cette scène qui est comme un coup de foudre, exactement. Ils reviennent sur le tournage et là, ils décident d'en faire un film. Donc, tout a été fait à deux. Et à la fin de ses mémoires, elle dira que c'était une folie, qu'il y a quelque chose. Elle voit la folie. Elle voit la folie parce que, bon, il y a eu, encore une fois, il y a eu 70 animaux humains très gravement mutilée, hein, à commencer par sa fille, hein, qui a eu une des opérations sur son visage, c'est 54 points de suture, elle a eu la nuque à moitié arrachée, elle a eu le cuir chevelu. Alors, le coiffeur devait en permanence dissimuler les trous dans le cuir chevelu de la mère et de la fille, etc. Donc elle voit cette folie, mais ça a été une folie jusqu'au bout, à deux, qu'ils n'ont pu mener qu'à deux, et c'est un film vraiment fait à deux, hein, c'est-à-dire produits ensemble. Et ça aussi, ça, je pense, ça raconte quelque chose d'intéressant, de aussi cette indépendance, cette autonomie que l'actrice hollywoodienne ne peut obtenir encore jusqu'à aujourd'hui. C'est sans doute plus facile aujourd'hui, enfin pour celles qui sont très bankable, qu'en devenant productrice, en fait. Alors, c'est l'histoire de Marilyn qui a été brisée à ce moment-là. Hein. Marilyn, on oublie toujours dans l'histoire, quand on romantise son suicide, que la grande question qui s'est quand même posée pour elle dans sa vie et dans sa carrière, c'est le moment où elle fonde sa maison de production et puis elle va se faire casser par les studios. Elle n'y arrive pas, en fait. Barbara Stanwyck a tenté. Eddie Lamar a tenté, elle a produit comme ça l'extraordinaire film de Ulmer, mais ça l'a ruiné. Jusqu'au bout de sa vie, elle va devoir rembourser ce film qui l'a ruiné. Donc cette question, je pense, de la production est très importante. Elle est l'idée aussi d'une autonomie totale, hein, qui est produire au sens aussi d'être scénariste. Ça passe pour elle, comme je le disais tout à l'heure, et c'est très important par ses fringues, super moches d'ailleurs, du coup. Bon, je préférais Edith Head, pardon pour cette remarque, mais c'est important. C'est-à-dire qu'elle s'habille comme elle s'habille elle. Non, elles sont pas super moches, mais elle s'habille, elle est châtain. Hitchcock ferait un arrêt cardiaque. Châtain, ça n'existe pas dans le système de valeurs hitchcockien. On est blonde, platine, rousse, à la limite, et encore, il faut se transformer en blonde, vertigo. Brune avec une perruque, hein, Marnie, mais alors châtain, c'est pas une couleur en fait. Donc elle est châtain, elle est pas maquillée, elle a pas de vernis, elle a des chaussures plates, elle est en pantalon, elle a des tuniques comme elle s'habille à l'époque dans les années 70. Et ça, elle en parle beaucoup dans les mémoires. Le fait qu'elle-même décide d'être sa propre costumière, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir sur son corps tel qu'il lui avait été arraché, hein, à la différence de... Puisque précisément, tu soulignais l'anecdote d'Hitchcock, c'est très important, mais c'est un champ contre champ. C'est-à-dire, on a d'un côté celui qui dit « elle a critiqué mon poids », c'est-à-dire, en fait, elle a... mentionner l'existence de mon corps, en fait. C'est même, ça va au-delà de critiquer mon poids. Elle a fait comme si j'avais un corps et qu'on avait le droit de parler de mon corps. Mais de l'autre côté, non seulement on peut parler du corps des actrices pendant des heures, mais surtout, il est une propriété, en fait. Hein, au début de tournage des oiseaux, sans aucune raison artistique, aucune, Hitchcock fait réaliser un masque. A living mask, on dit en anglais, c'est étonnant quand on voit ce que c'est. Donc, elle est contrainte de rester pendant 5 à 6 heures avec des pailles dans le nez pour respirer, pendant qu'on lui coule du plâtre, son maquilleur lui coule du plâtre sur son visage, et pour réaliser donc ce masque, et c'est très intéressant cette histoire, parce que c'est un masque qui donc reprend parfaitement les traits du visage de Tippi Hedren, évidemment sans les yeux, qui sont deux grands trous vide, hein. Donc c'est un regard crevé, mort. Hein. Des décennies plus tard, elle écrit ses mémoires, donc on est en 2016, elle a 93 ans, Tippi Hedren, au moment où on parle. Donc les mémoires, 2016, elle a déjà plus de 85 ans, elle se dit, mais en fait, je ne me suis jamais demandé, elle trouve que le plus fou, c'est pas d'avoir accepté ça, mais c'est de ne s'être jamais posé la question de pourquoi il a fait ça. Parce que le masque est allée rejoindre, alors pour le coup, imagine ma narratrice détective, est-ce que ce masque est allé rejoindre, alors là on est dans Barbe Bleue, une série de masques au grenier d'Hitchcock, est-ce que les héritiers d'Hitchcock ont hérité de masques, living masks, masques vivants ou masques mortuaires, on se croirait dans Aurélien, le roman d'Aragon, qui commence par cette scène sublime du masque, moi ça m'a fait penser à ça, ça m'a beaucoup marqué ce livre quand j'étais petite. Et donc c'est ça en fait, c'est le masque de la noyée de la Seine, c'est Tippi Hedren, d'ailleurs elle va essayer de se noyer dans Marnie, et elle comprend que la chose la plus fascinante dans sa soumission, parce que c'est quelqu'un de très intelligent et qui a beaucoup d'éthique, Tippi Hedren elle a été élevée avec beaucoup de principes et elle est obsédée par la question de la dignité. Et à ce moment-là elle comprend que le plus étonnant, c'est qu'elle n'est pas interrogée en fait, ça. Qu'elle se soit soumise, pourquoi pas, elle se soumettait à tout le reste. Mais qu'elle n'ait pas demandé, mais pourquoi vous faites ça en fait ? La question pourquoi ne lui est pas venue, et donc le masque a été réalisé, il est parti. Pourquoi j'ai parlé de ce masque ? Vous m'aviez parlé de... Oui, de ce film fait à deux. Donc il est entièrement fait à deux. Je vous dis, c'est un projet de couple, hein, réellement. Et d'ailleurs, quand il a été fini, le couple était terminé. Autant dire que le film... Elle a exigé, ce qui est fou, hein, enfin fou, là pour le coup, le film a coûté donc vraiment énormément d'argent, et elle a exigé, Tippi Hedren et Noël Marshall ont exigé des distributeurs américains que l'intégralité des recettes soit reversée à des des sociétés de protection des animaux. Alors, imaginez les distributeurs.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le côté home movie, mais oui. Ça a un tel côté home movie qu'il n'y a même pas besoin de scénario. C'est-à-dire que le film se suffit à lui-même. La première partie, c'est comment un fou furieux vit avec ses gros chats. Quand c'est la famille, ça se passe moins bien. Quand il revient, la famille comprend qu'ils veulent des câlins et ça se passe mieux.
Il y a bien
les deux contrebandiers, là, les abrutis qui veulent... Enfin, c'est très accessoire. Enfin, j'ai rarement vu un film qui se passe à ce point-là de la moindre ébauche de scénario.
Ils ne font pas semblant.
Voilà, ils ne parlent que de sa propre difficulté à être, en fait, à exister en tant que film, qu'effectivement, on imagine considérable.
Absolument. Et comme tu le dis très bien, c'est un documentaire sur leur vie, en fait. C'est un film.
Et je crois qu'un des fils de Marshall, il a dit au Cahier du cinéma, si le film sert à une chose, ça serait surtout qu'il n'y ait pas des dingues comme nous qui veulent recommencer.
Exactement.
Voilà, c'est-à-dire que le tournage du film, les différentes blessures... Yann de Bond, c'est celui qui est devenu réalisateur.
Absolument.
Après, celui qui a fait Twister.
Exactement.
Oui, donc il a été scalpé par un lion.
Entièrement scalpé.
Voilà, entièrement scalpé, un coup de patte. Et voilà, je ne sais plus si c'est John ou l'autre. Et il dit, mais voilà, c'était un film utopique. Mmh. Mais ça prouve que cette utopie-là, bon, ben, c'est bien, on peut peut-être la clore.
Voilà, l'utopie, ne
recommençons pas.
Mmh. Voilà. Bah, oui, c'est un film d'horreur, en fait, si vous voulez... Concrètement, ce qu'on vient de voir, c'est quand même... Si on pense que c'est un home movie, c'est un film d'horreur. Parce que, voilà, c'est-à-dire que... Alors, moi, c'est étonnant parce que je l'ai projeté il y a quelques temps et une spectatrice disait que ça l'avait fait rire et qu'elle trouvait notamment que la musique soulignait une dimension burlesque. Alors, ce qui est intéressant, je dirais, c'est qu'il y a une dimension slapstick. On pourrait même penser à un côté Buster Keaton de la chose. En même temps, Buster Keaton, c'est quand même l'acteur par qui les lois de protection de l'enfance sont arrivées aux États-Unis. Donc, il y a quand même un lien entre ce splash. Pourquoi ? Parce que son père le prenait, il était bébé, il avait quelques mois, le prenait dans ses bras et le balançait au milieu des spectateurs. Donc, les gens riaient. Certains ne riaient pas. Du coup, ils appelaient les flics. Les flics venaient voir la famille déménageait. Et c'est toute l'enfance de Buster Keaton, comme ça, qui est passé d'hôtel en hôtel et d'État américain en État américain. Et dans chaque État américain où passait Buster Keaton, eh ben, il y avait peu à peu des lois de protection de l'enfance qui se faisaient. Donc ça aussi, c'est un film d'horreur, en fait. Il y a quelque chose, effectivement... on pourrait dire qu'il y a une dimension tragique sublime chez Buster Keaton, dans ce qu'il n'a cessé de continuer à s'infliger. Je pense notamment à cette séquence inouïe de la maison qui tombe sur lui. Lui qui passe à travers la maison, c'est ça. Et il passait vraiment à travers la maison.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un centimètre près, quoi. Sa vie est en danger, ouais, absolument.
Oui. Et il y a un côté home movie aussi, du coup, chez Keaton, en quelque sorte. Enfin, dans la dimension du trauma. Et film d'horreur, il y a un film d'horreur en... Mais bon, c'est des... Oui,
une question qui peut paraître un peu marginale dans ce type d'expérience. Quel est votre regard sur Werner Herzog? En particulier, l'histoire de l'ours, d'ailleurs, qui a provoqué la mort de cet homme qui vivait
aussi. Alors, je vois bien l'histoire des ours, mais je me souviens un peu du titre du film.
Non, moi non plus. C'est pas Grizzly.
C'est un documentaire sur un monsieur qui voulait vivre avec les ours.
Voilà, et qui est mort.
Et puis, en fin d'hibernation, un jour, les ours se sont réveillés de mauvaise humeur et ils l'ont bouffé. Voilà. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
Et quand on connaît le tempérament de Herzog et d'un certain Klaus Kinski aussi.
Mais c'est un documentaire.
Il était aussi dans le No Limit.
Mais c'est un documentaire. C'est un documentaire.
Un peu fiction, non?
Ah non, je crois pas.
Du tout.
Non, je crois que le type avait emporté ses propres caméras pour filmer sa vie avec les ours, quoi.
Il y avait quand même le regard d'Herzog.
Et puis, l'ours est un animal sauvage et un prédateur. Et une fois, il lui a donné un coup de patte mal placé. Fin de l'expérimentation. Mais je sais pas si Hélène l'a vu, tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu, bien sûr.
C'est le côté No Limit de Herzog. Et on le vérifie sur Fitzcarraldo. Cette idée complètement saugrenue de faire passer le bateau par-dessus la montagne, et ça a produit quelque chose.
Alors, ça, je connais le titre, oui, c'est
Fitzcarraldo. Il y a eu même des morts, il y a eu des tas d'Indiens qui sont morts dans ce passage, alors qu'on pouvait très bien s'en priver.
Je pense qu'une des questions, en tout cas, que moi j'ai, sur laquelle j'ai buté dans, en écrivant « Trois femmes disparaissent », et qui est une question qui, que le cinéma nous montre agrandie, mais qui, n'est pas, qui ne concerne pas que le cinéma. Depuis toujours, je suis convaincue que le cinéma, c'est le lieu de penser, c'est le lieu de penser même, et que c'est là où tout se passe pour la pensée. Est-ce que finalement, l'être humain n'a que deux possibilités, oscille entre le statut de proie et le statut de prédateur, et que...
Ça reprend ce que vous évoquiez sur la sadisation tout à l'heure.
Est-ce que Tippi Hedren a été proie? Elle devient prédatrice de sa fille, on peut le dire aussi, et d'Aurore, en quelque sorte, oui. Mais est-ce qu'il n'y a dans ce système-là, dans ce système, que cette possibilité de passer de l'un à l'autre? Et est-ce qu'il n'y a pas manière de penser les choses... Enfin, les choses différemment que dans ce
Il y a Debra Winger dans ton livre aussi, Debra Winger aussi, par exemple, dans ton livre.
C'est échappé.
Voilà. On s'échappe, c'est la fuite, c'est la dissidence, c'est le refus du système, c'est ciao.
Voilà.
Quoi. C'était Debra Winger, hein, énorme star à l'époque, voilà. Etc. À un moment, elle a dit continuez à me lever le matin à l'âge que j'ai pour ce cirque, ça vaut plus la peine, quoi. Elle est partie.
Oui.
Tout le monde ne peut pas le faire.
Bon. Elle était très structurée, Debra Winger, et je pense, alors ça c'est pas le sujet de mon livre, mais moi je suis assez convaincue que par ailleurs, bon, c'est quelqu'un qui a été élevé dans un milieu très racidique, Debra Winger, et je pense que voilà, il y a un arrière-plan qu'elle a vécu d'une forme de structuration aussi par la religion, par une éducation très traditionnelle. Je suis pas en train de faire l'éloge de Lubavitch, hein, c'est pas ce que je dis, mais il y a un autre, elle vient d'un autre monde. Qui lui permet cette fuite-là. J'en suis convaincue qu'il y a ça, qui est fascinant d'ailleurs, je pense, dans cette histoire, enfin, qui est hyper intéressant dans cette histoire de Debra Winger. Voilà, après, bien, il faut faire en sorte, en parlant, de ne pas avoir de jugement. La question n'est pas de juger, hein. C'est pour ça que je parle de tragédie, parce que vraiment, dans la dimension de la tragédie, aucun jugement humain n'a de sens, en fait. Alors, évidemment, après, il y a des actes qui, au pénal, peuvent amener un individu devant un tribunal. S'il y avait eu un procès à l'époque d'Alfred Hitchcock, je ne sais pas comment ça serait terminé, mais clairement, les actes qu'elle raconte dans ses mémoires méritent de porter plainte. En tout cas, peuvent justifier. Alors évidemment, à l'époque où elle l'écrit, c'est prescrit. Mais voilà, je pense que le système Herzog... Bon, après, Herzog, oui, c'est... Moi, je l'ai connu, Herzog, oui, c'est... Herzog vient d'un monde très... il vient de la Prusse, Herzog. Hein, c'est encore, encore un autre... notre petit rapport à la violence.
Juste pour terminer, juste un point de vue très quasiment ancestral, puisque je crois que c'était sa nourrice qui était malade.
Et la tout d'un coup,
de Herzog.
Ouais.
Il décide de faire le pèlerin pour que ce soit...
Non, pardon, là, on s'égare complètement. Ce n'était pas du tout sa nourrice. C'était Lotte Eisner, qui était la plus grande historienne du cinéma allemand. Et dont une petite salle en haut porte le nom.
Mais oui. Il a fait...
Il a fait le voyage entre Munich...
Comme catharsis en quelque chose.
Il a fait le voyage entre Munich et Paris à pied pour que Lotte Eisner, la plus grande historienne du cinéma allemand et la meilleure amie d'Henri Langlois, guérisse. Et effectivement, elle a guéri.
Vous l'avez dit vous-même.
Voilà.
Moi, je ne prononce pas sur les miracles. Hein, ma compétence...
Mais on reparlera peut-être de Herzog. Elle aura eu le temps de réfléchir la semaine prochaine. Monsieur...
Oui, alors, il y a quasiment au même moment, il y a un autre projet dans une jungle qui dérive et qui est un projet un peu familial, qui est Apocalypse Now, et qui porte un regard sur l'Afrique et sur la nature d'une toute autre manière. Je voulais savoir si vous faisiez un parallèle d'une manière ou d'une autre.
C'est pas l'Afrique
Non, oui. Le roman est l'Afrique.
Oui.
Et même si ce n'est pas l'Afrique, ensuite le film, mais effectivement le Vietnam, mais moi je trouve qu'il y a...
Vous voulez dire un regard colonial ?
Oui.
Oui.
Qui est là, terrible, dans, comment dirais-je, son inconscient, à cœur ouvert.
Ah oui, totalement, oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs le
Parce
carton...
Parce qu'il n'y a, y a pas de travail là-dessus.
Ah non, pas du tout. Après... ça nous mènerait assez loin. Mais moi, j'ai plein de... Moi, si vous voulez, c'est pas je, on va dire. Ce que ma narratrice de mon livre, parce que c'est pas exactement, c'est pas moi, c'est la narratrice du livre, cette détective, effectivement, qui se prend pour Columbo, à un moment, elle se rend compte qu'effectivement, elle se demande si cette petite Mélanie, qui a donc subi des dizaines et des dizaines et des dizaines d'opérations et des centaines de points de suture et donc des centaines de morsures, de griffures, de fauves. Il y a à un moment la question d'une forme de greffe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se mélange, hein ? Il y a eu un livre il y a quelques années qui avait fait beaucoup parler de lui, d'une anthropologue qui avait été mutilée par un ours, qui avait écrit Nastasia Martin, un très beau livre sur cette histoire de la greffe. Elle se demandait si elle n'était pas devenue mi-femme, mi-ours, en quelque sorte. La moitié de son visage avait été arrachée. Donc, cette Mélanie Griffiths, donc elle commence des opérations de chirurgie esthétique constantes en étant constamment attaquée par ces animaux. Quand elle devient très jeune actrice, elle va être ce personnage wild. Ça revient tout le temps, ce mot. Ça revient dans les titres des films. Ça, au point que Wild Thing, le film génial d'ailleurs de Jonathan Demme, très beau film, elle joue une fille déchaînée. Elle a, Something Wild, ouais, c'est ça. Elle a des bracelets africains. Elle a des sacs. Elle devient une sorte de figure déplacée. Ça, c'est une théorie d'une actrice noire qu'elle n'est pas. C'est une blonde hollywoodienne. Mais c'est une blonde hollywoodienne mal vue. C'est une blonde hollywoodienne qui a un truc bizarre pour le regard blanc hollywoodien. Il y a quelque chose qui se joue, je pense, chez Mélanie Griffiths et qui va se jouer. Ça, j'en parle pas explicitement dans le livre. C'est pas exactement le sujet, mais c'est un des impensés du livre. Et je pense qu'il se joue un truc ici dans ce fantasme de l'Afrique qu'ils ont. Parce que c'est un fantasme, effectivement. À la fin, quand ils disent qu'il faut aller faire du tourisme pour sauver l'Afrique.
Un fantasme atroce, hein.
C'est un fantasme colonial, oui, donc oui, absolument. C'est un pléonasme, oui, je suis d'accord avec vous. Il suffit de lire Anna Arendt et les origines du totalitarisme pour découvrir l'ampleur de l'idéologie totalitaire coloniale, bien sûr. Elle est là. En même temps, il faut rapporter ça à la question de la domestication, c'est-à-dire qu'elle, c'est ce à quoi cette actrice qui a été domestiquée s'identifie. Elle veut être cet animal sauvage, en fait. Elle désire. En fait, c'est ça qui est génial dans cette histoire, c'est qu'elle tombe amoureuse du lion. Elle aime le lion, mais elle veut être le lion. Elle est le lion. Elle est le lion. C'est pour ça qu'on est dans une tragédie grecque. Dans les tragédies grecques, ça raconte quoi ? Ou plutôt, je pensais à la mythologie grecque. C'est pas la même chose. La mythologie grecque, c'est que des femmes qui se font violer, sauf Cassandre. Elle arrive à échapper au viol, mais ça se termine mal pour elle. Donc, elles se font violer par des dieux qui se déguisent en animaux, notamment en un gros cygne. Un Léda se fait violer par Zeus qui se déguise en cygne. Ça peut pas être très marrant de se faire violer par un énorme cygne. Ça rappelle quand même un peu des schémas de cygnes, d'oiseaux, de volatiles. Et elle accouche d'un gros œuf. De l'œuf va sortir sa fille, Hélène, qui va se faire violer quand elle a 10 ans, puis kidnappée. Puis après, on va dire, ah, c'est une grosse salope, c'est à cause d'elle qu'il y a eu la guerre de Troie parce qu'elle était belle. Et nanana parce qu'elle était belle, et nanana parce qu'elle était belle. Et mais en fait, si on regarde l'histoire, c'est que des histoires d'union généralement pas très consenti entre des animaux, des figures mythologiques effrayantes, des fauves. Donc il y a quelque chose qui est rejoué aussi là-dedans. Alors, cette dimension coloniale, je suis complètement d'accord qu'elle est là. Mais elle est un peu plus tordue, si vous voulez, parce que là, on n'est pas exactement dans le regard blanc, colonial, dominateur. On est face à une bande de dingues, qui sont quand même des marginaux, hein, par rapport à ce regard-là, et qui vont trouver refuge dans leur délire autour de l'Afrique. Mais, alors, bien entendu qu'il y a ils ne voient pas tous les impensés de leur fantasme de « on va sauver l'Afrique », qui est un fantasme blanc de base, certes. Mais je crois que ce n'est pas le sujet, si vous voulez, là. Là, je crois que c'est autre chose, d'autant plus que je pense vraiment que Mélanie Griffiths, à un moment, elle a été la noire de Hollywood. Elle l'a été, parce qu'ils ne voulaient pas des vrais noirs, hein, ils n'en voulaient pas. Donc, il y avait elle, et ça a mal tourné pour elle aussi, de ce point de vue-là. Et je pense que ça commence là, avec Rohr, et que personne ne l'a vu. Alors, ça crève les yeux, à mon avis, quand même. Et qu'elle-même ne l'a pas vu. Et ça finit comment ? Ça finit que Mélanie Griffith, à partir de 35 ans, elle arrête de tourner, qu'elle multiplie les opérations de chirurgie esthétique, cette fois-ci de, pour se faire, soi-disant, rajeunir, que ensuite elle va se, que sa peau devient son qu'elle est réduite à sa peau, sa mère en tant qu'actrice a été réduite à son corps, elle est réduite à sa peau, on est à le cran d'après, enfin à l'étape d'après, et donc elle fait tatouer le nom de son mec, ensuite quand elle est plus avec lui elle le fait détatouer, ensuite elle a des cancers de la peau, elle doit en être à son troisième ou quatrième cancer de la peau. Elle ne tourne plus, donc Instagram devient l'écran où elle se produit, où elle produit sa peau, avec uniquement des messages qui concernent les masques, les bandages qu'elle a quand elle sort des opérations des cancers, les bandages qu'elle met quand elle sort des opérations. Donc il y a quelque chose d'inouï, si vous voulez. C'est là où je dis qu'on est vraiment dans une dimension tragique. Et puis après, on passe à la troisième génération, Dakota Johnson. Et là, il y a cette chose inouïe. Hein. On a longuement parlé du contrat qui a donc... par lequel Universal a pu posséder pendant 7 ans Tippi Hedren, mais dans ce contrat qui spécifiait donc beaucoup de choses, notamment comme je disais son habillement, y compris en dehors des tournages, ce qu'elle mangeait, ce qu'elle buvait, etc., à qui elle parlait, c'est-à-dire elle avait le droit de parler à personne, y compris à tous les hommes qui étaient présents sur le, c'est-à-dire en fait tout le monde, il n'y avait que des hommes qui étaient techniciens, donc elle ne devait pas parler à aucun homme, c'était pas très pratique pour tous les techniciens du tournage, elle ne devait pas parler à ses partenaires masculins de jeu, il devait l'appeler la fille, comme tu le rappelais. Et donc quand arrive Fifty Shades of Grey, eh bien Dakota Johnson va devenir mondialement célèbre pour ce film qui fait des centaines de millions de vues. Enfin, ce film, c'est une série, c'est une franchise, mais si on s'attarde déjà sur le premier, on voit que ce que ça raconte, là, pour le coup, il y a un scénario. Il n'y a même que du scénario. Eh bien, le scénario, c'est l'histoire d'une fille qui n'a pas du tout envie de faire de la baise SM. Hein, ce n'est pas du tout son truc. Hein, même ça lui donne presque envie de vomir quand on la voit qui regarde des trucs, qui va être achetée par un milliardaire dans un contrat exclusif qui reprend terme à terme celui de sa grand-mère. C'est les mêmes termes. Elle, il spécifie ce qu'elle a le droit de manger, rien. Ce qu'elle a le droit de boire, rien. Comment elle doit l'appeler, monsieur. Comment il va l'appeler, la fille. Est-ce qu'elle a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes? Aucune. Est-ce qu'elle a le droit de parler aux autres hommes? Aucune. Est-ce qu'il a un droit exclusif sur elle? Absolument. Et ça, c'est l'histoire de Fifty Shades of Grey. Donc c'est là où il y a quelque chose, pour le coup... qui est, comment dire, qui sublime, on peut dire, la question de la vérité factuelle. La vérité factuelle, elle est là. Mais la littérature, elle est là pour autre chose, pour voir quelque chose qui est cette lignée, en fait, hein, cette transmission.
Et puis on a bouclé la boucle avec 50 nuances de gré. Merci beaucoup, Hélène.
Que je ne vous ai pas infligé, donc rien pour ça, vous devez m'être très reconnaissante.
Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci,
à jeudi
Frédéric.
Prochain. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.